dans cet épisode du balado compte complet.
On marque deux points en septième. On amène Peralta pour lancer la huitième qui a été solide. Et t'amènes ton meilleur releveur en neuvième. Alors, on peut pas blâmer Pat Murphy. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est juste que les Mets ont été meilleurs dans la situation de fin de match.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Le premier tour des séries est terminé, nous en sommes aux séries de division. Commençons par la Ligue américaine. Marc, ça n'a pas été très long. Les quatre matchs ont été remportés par l'équipe sur la route. Certains diront deux surprises. Kansas City et Détroit qui passent au tour suivant. Je vais être simple dans mon analyse, Marc. Une par une. Dans le cas des Tigers, Houston est mal tombé. Je vais dire ça comme ça. En affrontant peut-être la meilleure équipe de la Ligue américaine au cours des six dernières semaines. Et dans l'autre cas des Royals de Kansas City contre Baltimore, c'est ça, écoute, on n'a pas vu d'énergie du côté des Orioles, puis c'est pas étranger à ce qu'on a vu ces dernières semaines de la part de Baltimore. Donc, Kansas City en a profité amplement, puis en plus, c'est exactement le genre de match que Kansas City voulait jouer. Deux matchs serrés.
Exact. Écoute, dans le cas des Tigers, selon moi, c'est, Alain, la démonstration parfaite comment jouer en équipe, comment avoir tous une importance dans notre équipe. Il n'y a pas de Bobby Witt Jr. avec les Tigers. Il n'y a pas de Juan Soto avec les Tigers. Les Tigers, c'est de 1 à 9. Ce sont les 7 releveurs ou les 7 lanceurs qui ont lancé dans le dernier match. On joue en équipe. Tout le monde se tient la main dans cette équipe-là. Puis, faut le dire, géré de très belle façon par AJ Hinch, qui semble être le leader un peu de tout ça. Donc, c'est un bel exemple. C'est vraiment là, d'un sport d'équipe qui est très individuel, là, mais où que, regarde les coups sûrs, qui a frappé les coups sûrs? Oui, tu sais, oui, t'as des Riley Green qui vont bien, puis j'ai pas de problème, là. Mais tu vois que ça reste que, tu sais, on peut pas lancer autour vraiment d'un gars alors que l'autre peut faire le travail, même s'il n'y a pas une très bonne moyenne au bâton, ou même si, tu sais, on a vraiment l'impression là, que ça fonctionne ainsi. Puis ça fait un bout de temps que ça fonctionne ainsi avec les Tigers. Là. Tu regardes depuis la pause du match des Étoiles, c'est parmi, je pense que c'est la quatrième meilleure fiche de tout le baseball. Donc, il y a quelque chose là. Et effectivement, on est arrivé à Houston, aucunement intimidé. Je sais qu'on a tous vu le tableau là des masses salariales, puis là ben on voit que les Tigers font à peu près moins que Josh Hader à lui seul, là, c'était un peu exagéré, mais ça reste que une fois que tu es sur le terrain, tu sais, est-ce que tu commences à regarder les salaires d'un puis de l'autre, tu joues à balle, tu essaies de frapper, tu essaies de retirer le frappeur, si t'es lanceur, tu essaies de faire le travail. Donc moi, je trouve que c'est parfaitement l'exemple. Et les Tigers, Alain, ce n'est pas terminé. On a le vent dans les voiles. Ça va être, je pense que ça va se poursuivre leur succès. Est-ce qu'on va passer à travers? Je ne sais pas, mais ça ne sera pas une série facile pour les Guardians dans ce cas-ci. Et les Royals, ben tu l'as dit, c'est exactement le genre de match qu'ils doivent jouer. Mais Alain, il va falloir quand même profiter un petit peu plus de nos chances de marquer. T'sais, on sait qu'on n'en donnera pas une tonne de points, mais il faut quand même donner un petit peu de coussin de temps en temps. On a laissé beaucoup de coureurs sur les buts dans le match numéro 2. Bon. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais oui, on a profité des Orioles qui, Alain, était à plat depuis un bon bout de temps. On en parlait souvent. Oui. On a fait des matchs des Orioles dans le dernier droit. Puis on disait, il manque un petit peu de cette énergie qu'on a vue en saison. Puis qu'on n'a jamais réussi à retrouver en série.
Oui, écoute, un point en deux matchs. C'est un circuit de Cedric Mullins. Écoute, je ne sais pas pour les Orioles de Baltimore. Je sais qu'il y a eu plusieurs blessés, mais chez les lanceurs partant, Marc, tu ne peux pas blâmer les lanceurs là, pour cette... dans cette série-là. On a accordé 3 points en 2 matchs. La bonne nouvelle pour les Royals, c'est que, bon, du côté de l'attaque, on est capable de faire mieux avec ce qu'on a. Mais pour revenir à Baltimore, C'est extrêmement décevant. C'est le métier qui rentre. On est encore jeune. Il y a des décisions à prendre. On a fait notre post-mortem. On ne s'est pas commis sur une augmentation de la masse salariale parce que là, il y a deux gros joueurs autonomes qui s'en viennent. Santander puis Corbin Burns. Burns va être extrêmement sollicité, ça c'est certain, par les autres équipes. Moi, je pense que les Red Sox de Boston pourraient être intéressés à Corbin Burns, par exemple. Donc, du côté des Orioles de Baltimore, écoute, il ne faut pas tout jeter par-dessus bord. Je pense qu'on a une bonne base, mais tu sais, deux matchs, ça vient vite. Mais ça va au-delà de ça, Marc. C'est la fin de saison là, qui a peut-être été problématique.
Mais la fenêtre est là pour les Orioles. On a une bonne équipe. Ça fait deux ans, Alain, qu'on a une bonne équipe, qu'on ne gagne pas en série. En fait, ça fait quoi? 10 matchs? Mm-hmm. 10 défaites de suite en série. Là. Donc là, il faut trouver une recette qui fait que là, on va bien en saison, mais qu'on est capable d'aller chercher des matchs en série. C'est pas le talent qui manque. Mais comment... Quand tu sais que tu es à plat, puis tu sais, ils savaient eux-mêmes là, qu'ils étaient à plat, là. Mm-hmm. Mais comment tu réussis à amener une énergie différente, ça, c'est pas évident. Et si quelqu'un avait la solution, là, on l'appliquerait assez facilement, mais ça reste qu'effectivement, on a une bonne base, mais je voudrais juste pas qu'on gaspille des bonnes années là, du côté de Baltimore. Là. On est jeune, il n'y a pas de problème. J'espère juste qu'on a appris là, de nos deux dernières saisons en série. Là.
Oui, écoute, on va ajouter probablement comme régulier l'année prochaine Holiday Eckerstad. Est-ce qu'il y a de la place pour Santander dans ce contexte-là pour sauver de l'argent pour quelqu'un d'autre? Écoute, Michael Hayes a dit on a l'appui du propriétaire. Évidemment, publiquement, Marc, c'est pas une très bonne chose de dire on va augmenter la masse salariale. Là, tu viens d'ouvrir ton jeu pour le prochain marché.
Il y a des agents qui sont en train de se frotter les mains en ce moment.
Ben, c'est ça. Regarde, tu ne peux pas le dire publiquement, mais entre tes lignes, son lit, on a l'appui du propriétaire. On sait que les Royals ont changé de main là, en début de saison. Donc, moi, je m'attends à ce qu'effectivement, là, qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour essayer de remédier à la situation. Il y a des jeunes qui s'en viennent. Ce qu'on va peut-être sauver avec Santander, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils reviennent. C'est personnel, je ne m'attends pas à ce qu'ils reviennent. Pour laisser la place à des jeunes. Mais on va peut-être mettre d'argent, par contre, sur un lanceur ou deux. Peut-être en relève, Marc, parce que chez les partants, il y a eu plusieurs blessés. S'il y en a un ou deux qui revient, on va être en voiture.
Bon, écoute, de toute façon, la saison des Orioles est terminée. Ouais. On aura amplement le temps d'en reparler, Alain. Il faudrait focusser là, sur ce qui s'en vient. Là.
Bon, ben justement. Détroit-Cleveland, Marc. Écoute, Cleveland n'a pas... C'était une équipe surprise, c'est pas compliqué, là. On a réussi à terminer premier de la façon la plus inattendue qui soit en ce qui concerne les Guardians de Cleveland. En début de saison, l'analyse de cette équipe, on a des bons lanceurs partants, on va carburer avec ça. Et là, on a fini la saison avec Tristan McKenzie dans le baseball mineur. On a fini la saison avec notre lanceur partant numéro 1 qui n'a même pas lancé cette année et avec Logan Allen qui, lui non plus n'a pas été capable de performer. Regarde, ça va durer combien de temps? On a eu le meilleur personnel de releveur du baseball majeur. Et c'est un rendement qu'on a très peu vu depuis l'histoire. En tout cas, je vais parler des 50 dernières années, depuis l'avènement des spécialistes de releveurs. Ça ne s'est presque pas vu, là, le rendement global d'un personnel comme celui-là. Est-ce que ça va être assez? Pas sûr.
Ben, il n'y a rien de facile, rien de sûr dans cette série-là en termes de prédiction. Mais effectivement, c'est, on a changé un peu notre façon, notre force a comme changé en cours de route pour Cleveland. Est-ce que tes lanceurs peuvent te donner les cinq manches demandées, puis après ça, avoir la relève qui fait le travail? C'est pas impossible que ça se fasse. Moi, c'est encore autour de l'attaque. Je regardais les chiffres de José Ramirez en série. Ça a bien été l'année dernière, mais globalement, là, en plus de 130 présences, c'est un PP à 6,40 là, autour de pour Ramirez en série. Il ne faudrait pas que ce soit le cas cette année. Tout tourne autour de lui. Je sais que Josh Hader est là. Je sais que Stephen Kwan, est-ce qu'il sera en santé parfaitement, on verra. Est-ce que Lane Thomas ne devient pas un peu le joueur clé de cette attaque-là à ce moment-là? Fort possible. Mais moi, écoute, je pense que je vais carburer avec ce que les Tigers ont fait. Ça marche depuis un bout de temps. Tu sais, ça marche dans un 2-3 en limp, ça va marcher dans un 3-5. Le 4-7, là, on s'en reparlera si on se rend là du côté des Tigers. Et là, ce que je parle de ça, c'est que tu as pratiquement un lanceur partant ou deux, et après ça, tu te garoches ouais. avec un paquet de lanceurs. Ça a fonctionné effectivement pendant un bout de temps en deuxième moitié de saison. Je pense que la stratégie va continuer à fonctionner, moi.
Ben écoute, ça va fonctionner, d'autant plus que tout favorise les Tigers, Marc. Deux journées de congé pour commencer. Puis si ça se rend en cinq, on aura trois journées de congé de plus après le premier, après le troisième, puis après le c'est-à-dire après le premier match, après le deuxième, puis après le quatrième match. Tout favorise les Tigers quant à l'utilisation des lanceurs au cours de cette série-là. Moi, c'est pour ça que je les favorise face aux Guardians.
Ouais. Ben moi aussi, je les favorise. J'ai bien aimé la façon. Puis, tu sais, je me répète un peu, mais regarde, tu sais, regarde qui a eu les gros coups sûrs. Ça, c'est Ibanez sort du bain, il y a le gros coup sûr. On peut marquer de différentes manières. Moi, j'aime l'expression, là, j'aime la vibe, là, j'aime ce qui se passe à travers cette équipe-là.
New York, Kansas City. Du côté des Yankees de New York, je me demande, avec l'élimination de Houston et Baltimore, qui étaient deux équipes plus talentueuses que les équipes qui les ont battues, là, on a analysé ce qui s'est passé. Est-ce que la porte n'est pas ouverte jusqu'à la Série mondiale? Je sais que c'est dangereux de penser loin comme ça, là, mais je pense qu'elle l'est.
Oui, ben écoute, tout à fait. Je veux dire, froidement, là, à première vue, là, oui. Oui, absolument. Je pense que le chemin est dressé, mais il faut jouer ces matchs-là. Puis, non seulement il faut les jouer, Alain, mais je regarde la qualité des lanceurs des Royals. Là. Je m'excuse, mais écoute, je regardais les chiffres de Reagans, entre autres choses, et de Seth Lugo face à Aaron Judge. Aaron Judge a zéro succès face à ces gars-là. Là. Je dis pas que ça va se poursuivre parce qu'on connaît la saison de Judge puis il est capable de s'ajuster comme parmi les meilleurs. Là. Mais il y a des chiffres qui m'indiquent, Alain, que ça va être une série pas mal plus serrée que les gens pensent. Je suis content que Bobby Witt Jr. soit sur la grande scène. Il l'a démontré encore une fois dans la première ronde. Là, il s'en va à New York. Le seul problème, c'est que la stratégie me semble assez simple pour les Yankees. T'sais, lance autour de Bobby Witt, puis même si Pasquantino est de retour, et ça va aider énormément, puis d'ailleurs, il a joué ses matchs-là lors de la première ronde. Ça me semble une stratégie qui est relativement simple. Lance autour de ce gars-là, de Bobby Witt, puis le reste, ça devrait quand même bien aller, alors que les Yankees, eux, devront trouver le moyen de marquer des points. Le point d'interrogation chez les Yankees, pas nécessairement les lanceurs partants. Moi, j'ai confiance que Garrett Cole et Carlos Rodon donnent un bon rendement, surtout dans les deux premiers matchs. La défense des Yankees, ça peut ouvrir la porte, puis on sait que Kansas City peut profiter de ça. Donc, ça, c'est ça un élément à surveiller au cours de cette courte série-là.
Oui, écoute, je favorise les Yankees. Ça pourrait être une courte série, selon moi. Les Yankees, beaucoup mieux pourvus à l'attaque. Écoute, tu ne peux pas lancer éternellement autour de deux joueurs. Si les Yankees ont le luxe de le faire autour de un, là, il faut que tu le fasses autour de deux chez les Yankees. On se donnerait une meilleure chance de gagner s'ils frappaient 1-2. On en a déjà parlé, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je favorise les Yankees. Je pense que c'est ton cas aussi.
Je favorise les Yankees, mais ça ne sera pas aussi simple que ça. Je ne dirais pas que ça sent. Ouais. Ça pourrait même aller jusqu'en 5, mais c'est sûr que les Yankees vont remporter. Ben, c'est sûr. C'est pas sûr, là, mais on les favorise, effectivement.
Oui. Bon, c'est le temps de la question du jour. La question du jour et de la semaine, compte tenu évidemment de notre balado là, qui est présenté de façon irrégulière. La question est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Donc, la question, c'est pas compliqué. Qui, entre les Tigers et les Royals, surprenant au cours de la première ronde, a le plus de chances de passer au tour suivant, donc à la série de championnats de la Ligue américaine? Envoyez-nous vos commentaires sur cette question sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado, ou encore sur notre site, où il y a les directement compte-complet.com.
Alain, c'est le moment de vous rappeler notre commanditaire principal, Plan de match, boutique de baseball. Je m'y retrouve d'ailleurs actuellement. C'est à Boucherville. Alors, pour tout pour le baseball, vous voyez les merveilleux gants derrière moi, cage de frappeur, cours privé, boutique en ligne. C'est la place de choix, donc, pour votre équipement de baseball. Je vous rappelle aussi la meilleure façon de nous écouter ou de nous regarder, ben passez par notre site Internet. Tous les liens sont là, www.comptecomplet.com.
On va passer à l'analyse de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. Il y a une seule équipe, Marc, favorite, en guillemets, donc qui joue à domicile, qui a remporté sa série. Ce sont les très dangereux Padres de San Diego contre une équipe, disons-le, qui était probablement fatiguée à la suite du programme double de lundi, à la suite du voyage à San Diego. Je ne dirais pas qu'on s'est rendu là avec une main dans le dos, se battre contre les Padres, mais je ne suis pas sûr qu'on se battait à armes égales.
Non, mais de toute façon, même en bonne santé ou en bonne forme, ouais, ou avec une journée de congé ou deux de plus, là, je pense que les Padres allaient passer à travers les Braves de toute manière. Je pense que les Padres sont en mission. Bien hâte de voir d'ailleurs la prochaine série contre les Dodgers, mais on a vu là, qu'on est bien équipé, on a une bonne attaque au monticule. Le seul point d'interrogation que je retiens de cette série, c'est la blessure à Musgrove. Il a quitté le match, ouais, blessure au coude. Est-ce que c'est par précaution? Est-ce que ça... Bon, c'est quand même un morceau important de la rotation. Ouais. On a de la profondeur du côté des Padres à ce niveau-là, mais ouais, ça reste que j'aimerais savoir vraiment l'état de santé de Musgrove avant le début de la prochaine série.
Oui, c'est sûr que du côté d'Atlanta, on n'a pas eu... Regarde, probablement que Sale et Lopez, si ça avait été disponible, auraient commencé les deux premiers matchs. Smith, Shaver, partant dans le premier, je sais que bon, il fallait impérativement gagner un des deux matchs du double de lundi. Il n'y avait pas de lendemain si on ne le faisait pas. Mais écoute, sans Sale, ça devenait extrêmement difficile. Avec lui, ils n'étaient pas favoris. Sans lui, c'était trop demandé.
C'est à l'image de la saison des Braves ce qui s'est passé. Ouais, on a gagné suffisamment pour se faufiler en série finalement au 162e match. Dès le début de la saison, Alain, on l'a senti. C'était pas la meilleure saison, ouais, d'Acuna avant sa blessure. Osun n'était certainement, ouais, pas sur une séquence qui allait lui amener une cinquantaine de coups de circuit. Il y a plusieurs facteurs qui nous laissaient croire que soudainement, ça allait être une saison plate pour les Braves. Ça s'est poursuivi, mm-hmm, même durant toutes les 26 semaines de la saison. Genre de saison à oublier pour les Braves. On va recommencer l'année prochaine. Et pour les Padres, ben c'est mission accomplie. On voulait éliminer ça les Braves en deux matchs et se préparer donc pour leur grosse série face aux Dodgers.
Oui. L'autre série, Marc, c'est terminée de façon assez spectaculaire. Merci, les Brewers, à trois retraites passées au tour suivant. Ils avaient un des meilleurs releveurs de fin de match au Monticule avec Devin Williams. Écoute, on avait parlé de Pete Alonso qui a connu une saison correcte sans être très spectaculaire. Mais là, c'était le temps, là, Marc. Ce qui aurait pu être sa dernière présence dans l'uniforme des Mets s'est transformé en célébration haute en couleur à New York. Je veux que tu me parles de l'approche des Mets face à Devin Williams. Parce qu'on n'a pas semblé déjouer. C'est peut-être le danger d'un lanceur à deux, d'un lanceur avec un répertoire aussi limité, aussi dominant puisse-t-il être avec ses deux lancers.
Alain, je pense pas que c'est... je pense qu'un releveur à deux lancers, il peut connaître mm-hmm, du succès à tout moment. Là. Moi, c'est une combinaison de deux choses. Premièrement, c'était parfait pour les Mets d'avoir le haut de la formation, d'avoir Lindor comme premier frappeur dans cette manche-là. C'était... le gars était sur les buts encore une fois tout le match. Mm-hmm. Très bonne présence, beaucoup de balles fausses sur des tirs, pas évident, mais sous-tir finalement le but sur balle. Ce que j'ai aimé de l'approche de Pete Alonso, évidemment, Nemo qui a frappé son solide coup sûr par la suite, mais ce que j'ai aimé de l'approche de Pete Alonso, puis je l'ai vu en tout cas dès sa présence. De toute évidence, même s'il a dit le contraire, il a dit qu'il cherchait pas nécessairement un tir. Je m'excuse, mais si tu frappes le changement de vitesse, un changement de vitesse de la sorte à 3-1, il faut que tu t'attendes à ça. Là. Je veux dire, il a tellement un bon changement de vitesse, ouais, Devin Williams. Mais tout ça pour dire que le tir à 2-1, c'était un bon changement de vitesse qu'il a lancé Williams. Et Alonso l'a regardé passer comme si rien n'était en voulant dire, ouais, si tu attends un changement de vitesse, tu peux voir un peu cette balle s'en aller vers l'intérieur, comme Alonso l'a fait. Alors là, il devenait, ouais, à 3-1. Puis effectivement, Alain, tu l'as dit, il y a deux options. Il me lance une rapide ou il me lance un changement de vitesse. Mais à 3-1, tu peux te permettre d'anticiper un tir. T'sais, si ce n'est pas celui-là, ouais, ben, tu tombes à 3-2. T'sais? Et mm-hmm, la façon... Donc, parce que pour frapper une balle, Alain, au champ opposé, comme il l'a fait en flèche, Imagines-tu à quel point ça, la balle doit être profonde dans la zone de contact, tu sais, pour que tu peux pas frapper une balle en avant de toi, il faut que tu laisses entrer cette balle-là.
Ouais.
Alors moi, j'ai trouvé ça extraordinaire la façon. Et dès qu'il l'a frappé, tu savais que les Bros étaient dans le trouble. Ça allait être au minimum un double contre la clôture, et là, ça allait créer l'égalité, où évidemment, là, la balle est passée de l'autre côté de la clôture. Il a passé à l'histoire avec ce coup de circuit, là. Quel beau moment de baseball, sérieusement, là, qu'on a vécu avec cette claque de Alonso. Ça pouvait pas arriver peut-être à un meilleur gars, compte tenu de toute son historique avec les Mets de New York. Et là, d'un gars qui se faisait beaucoup critiquer parce que faut dire, il avait pas fait grand chose encore dans cette série, à un héros, tout simplement. C'est ça, la beauté de ce sport-là. On arrive avec des situations où il y a pas de cadran en fin de match. On peut revenir comme les Mets l'ont fait. Puis le gars passe pour un héros maintenant, alors que tout le monde disait effectivement, ça va être sa dernière présence avec les Mets. Alors, très beau moment de baseball, haute intensité, très émotif. Et en plus, les Mets qui ajoutent un autre point dans cette manche-là, alors que Devin Williams était plus là, après avoir donné le coup de circuit. Alors, bravo, Mets. Ouais. Honnêtement, là, chapeau à cette organisation. C'est dommage pour les Brewers. Il aurait fallu achever ça dans le match numéro 2. On n'a pas été en mesure de le faire. Mm-hmm. Écoute, tout était aligné pour que ça fonctionne pour les Brewers. On marque deux points en septième. On amène Peralta pour lancer la huitième qui a été solide. Et t'amènes ton meilleur releveur en neuvième. Alors, tu ne peux pas blâmer Pat Murphy. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est juste que les Mets ont été meilleurs dans la situation de fin de match.
Même si, Marc, je regarde dès le match, je me suis dit, il y a probablement eu un barrage de critiques après qu'on ait enlevé Myers après 5 manches, mais c'est pas là que ça s'est décidé. Oui, ben je sais. on faisait de la télépathie, Marc, mais regarde, c'est pas là que ça s'est décidé. Écoute, je veux que tu me parles de celui que j'ai surnommé l'illusionniste, c'est José Quintana. Parce que c'est pas lui qui a le plus haut taux de prise. C'est tout juste au-dessus de 60%. Sauf que, Marc, quand tu t'arrêtes seulement aux tirs qui sont cadrés, c'est 40% à peine des tirs. C'est un peu plus de 40% des tirs de José Quintana qui sont dans la zone des prises. Autrement dit, il y a un 20% de prise. Ce sont des joueurs qui s'élancent sur des tirs à l'extérieur de la zone des prises. Raconte-moi comme frappeur, on le sait, comment est-ce qu'on réussit à déjouer les frappeurs et comment les frappeurs, eux, ne sont pas capables de résister à la tentation de s'élancer sur ces lancers-là.
Chaque frappeur, habituellement, tu as un plan. Alors, si tu es un frappeur droitier, par exemple, contre Quintana, tu peux rechercher un tir au coin extérieur. Et lorsque tu le vois, ce tir-là, là, tu as l'impression que j'ai lu la rotation, la balle va revenir toucher le coin. Mais Quintana est toujours capable de la placer. Tu sais, juste un petit peu plus loin au coin extérieur. Alors, tes contacts sont jamais francs. Lui, le truc, tu l'as dit, là, avec les statistiques que tu as mentionnées, tu sais, moi, j'ai pas besoin de cadrer des tirs. Donc, il joue à travers les coins, mais toujours à l'extérieur de la zone des prises. C'est comme, tu sais, je te parle souvent, Alain, un gaucher, un frappeur gaucher contre un lanceur gaucher. D'ailleurs, Quintana est gaucher, là. Alors, moi, je vais rechercher avant deux prises, toujours quelque chose centre intérieur. Mais quand c'est à l'intérieur, là, tu sais, j'ai l'impression que je suis capable. Mais au lieu que le tir revienne toucher le coin intérieur, il reste hors de la zone des prises. Puis là, ben, t'es un peu coincé dans ton tir. C'est de l'art, ça, Alain. C'est carrément de l'art. Et, effectivement, une stratégie serait de garder ton bâton sur l'épaule puis attendre d'avoir deux prises. Mais c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Mais écoute, tant mieux, je suis content parce que Quintana, bon, pas qu'il y avait eu des critiques, mais tu sais, ça n'a pas été une saison là dominante. Il arrive en série et il offre le départ tant souhaité par l'organisation. Ouais. Donc, tu sais, il y a une force de caractère là-dedans. Puis moi, il y a l'expérience. Écoute, il y a quoi? Il y a 35 ans, Quintana, là, donc. Je trouve que là, les Mets ont démontré que ça sera pas facile pour les Phillies dans la prochaine ronde.
Bon, justement, parlons-en. On va commencer. Mets, Phillies, Marc et Dodgers, Padres, tu t'attends à quoi?
Écoute, moi, Mets, Phillies, moi, je pense que c'est les journées de congé, les 6 jours de congé des Phillies, là, ça ne pouvait pas tomber mieux pour cette organisation-là. Ouais. Tu sais, plusieurs avaient des petits bobos. Harper avait des petits bobos. Real Muto, Alec Baum avait des petits bobos. Six jours. Je sais que souvent, les gens vont dire, ouais, mais le momentum. Les Phillies ont joué 500 après la pause du match des étoiles. On peut pas dire qu'on était sur une lancée extraordinaire.
Ouais.
Moi, je pense que les six jours vont faire du bien. C'est l'équipe à battre, selon moi, là, dans cette série-là. Ils ont, les Phillies pour aller jusqu'au bout. Là. Si on démarre les séries comme il faut, là, ils peuvent aller jusqu'au bout. Alors que les Mets viennent de démontrer tout ce caractère-là. Ils ont joué beaucoup de matchs émotifs récemment. Mais je pense que les Phillies vont venir à bout en cinq matchs là, pas contre les Mets.
Oui, c'est ce que je pense également. Et peut-être la série, une des séries les plus attendues. En tout cas, c'est dans l'Ouest, Los Angeles contre les Padres de San Diego. Ça va. Écoute, moi, je te dis, je pense. Encore une fois, pour une troisième année de suite, les Dodgers vont se faire sortir en série de division.
Ça va être une très bonne série. Je pense que les Dodgers sont quand même mieux équipés. Je sais que leur lanceur partant, c'est. Regarde, écoute, Alain, ils ont marqué près de 100 points de plus que les Padres, 80 quelques points de plus que les Padres en saison. On va marquer des points. On va marquer des points. Moi, je pense que les Dodgers, c'est la meilleure équipe. Est-ce que les Padres. Qui semblent beaucoup mieux préparés, Alain, semblent beaucoup jouer beaucoup mieux en équipe, mais je suis pas certain que ça va être suffisant. Moi, je vais aller avec les Dodgers en 5.
Donc, Phillies, Padres en ce qui me concerne, Phillies, Dodgers. Donc, ce sera à suivre. C'est maintenant le temps de la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de cartes-union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On s'arrête sur Bobby Thompson, sur carte de 1951 de Bowman, carte numéro 126. C'est une compagnie fondée en 1927 qui a été acquise, cette compagnie, par Tufts en 1956. Donc, écoute, la marque a été, en fait, un retour à la fin des années 80. En 51, bon, l'ensemble Bowman, 324 cartes avec l'illustration en couleur. Ça, c'est sur la face recto. Thompson, pour sa part, pourquoi lui? Le 3 octobre 1951, il a frappé probablement le circuit qui a résonné le plus dans le monde du baseball à New York. On va parler de New York, Marc, parce que, bon, à Los Angeles, on va vous parler de Kirk Gibson, probablement. On disait à l'époque que, bon, c'est le circuit dont on a entendu autour du monde. New York étant ce qu'elle est, bon, on se pense au centre du monde, donc on... c'est ce qui est arrivé. Donc, Bobby Thompson, pourquoi lui? Ben, son équipe, dans un match éliminatoire contre, bon, c'était les Giants de New York contre les Dodgers de Brooklyn. Écoute, tout était là pour ce moment historique dans le monde du baseball. Un circuit de trois points en fin de neuvième manche pour permettre aux Giants de New York de se rendre jusqu'en série mondiale. Une série mondiale qui a été perdue entre les Giants de New York et les Yankees de New York. Les Yankees qui remportaient une troisième série mondiale de suite. Écoute, il y a un paquet de publications et de livres qui ont été écrits sur ce moment magique. Marc, tu as probablement déjà vu des images là, de Bobby Thompson et du descripteur qui s'époumonne à répéter ad nauseam « The Giants win the pennant, the Giants win the pennant ad nauseam ». C'était un des moments les... En tout cas, les plus célèbres de l'histoire du baseball à New York. Marc, tu as écrit un texte très touchant sur les 20 ans du départ des Expos, un texte qui est disponible sur rds.ca. C'est un moment triste, il faut bien le mentionner, de l'histoire du baseball à Montréal. C'est pas juste le baseball majeur non plus. Je pense qu'on ne s'est pas glorifié avec tout déménagement. De toute façon, c'est un moment triste, je pense, pour le baseball majeur. Moment touchant. Pour ceux qui s'en rappellent, qui se sont rappelés des bons moments des Expos. Moi, je préfère me rappeler de cette belle époque. Moi, mon époque, évidemment, c'est la fin des années 70, début 80. Je sortais de l'adolescence à ce moment-là. Je préfère me rappeler ces moments-là que les dernières années des Expos.
Oui, ben écoute, parce que moi, je vais dire une chose, Alain, c'est pas des souvenirs hyper agréables. Le dernier match au stade, le dernier match au stade du Chez. Contre les Mets de New York, alors que j'étais avec Jacques Doucet et Jacques c'est 36 ans d'histoire, 36 ans de travailler pour le baseball qui se terminait de cette façon-là. C'était vraiment d'une très, très grande tristesse. Moi, j'étais un genou encore, ça faisait une dizaine d'années, mais je pensais faire ma vie pratiquement avec les Expos, puis finalement tout ça s'écroulait devant nos yeux et de voir tous ces beaux souvenirs un peu s'écrouler. Et t'as raison, Alain, je pense que c'est la meilleure manière de voir les choses, là, c'est de se rappeler nos bons moments. Tu sais, je veux dire, là, ça fait 20 ans, je pense, pour réaliser là, que ça reviendra peut-être pas, puis il y a peut-être de l'espoir éventuellement, peu importe. Moi, j'aime me concentrer sur ce que les expos m'ont fait vivre grâce à Gary Carter, grâce à justement à Jacques Doucet, à Claude Raymond, j'écoutais la radio. Mm-hmm. Ils m'ont fait vivre des moments incroyables. J'ai finalement signé pour l'organisation. J'ai vécu ces moments-là. Donc, moi, je vais toujours remercier... les Bronfman d'avoir forcé la note pour que les expos, les Jean Drapeau, les Jerry Snyder qui ont fait en sorte que les expos ont vu le monde. C'est plus ça, effectivement, que moi qui m'intéresse en ce moment que de se rappeler là, ces tristes moments du départ, puis c'est la faute à qui, puis qui aurait pu faire plus. T'sais, on a fait le tour, là.
Oui, absolument. Marc, une autre nouvelle qui a secoué le monde du baseball au cours de cette semaine, c'est le décès de Pete Rose en début de semaine. Pete Rose qui était un grand joueur. Malheureusement, une fois sorti du terrain, même pendant qu'il jouait, Marc, il n'a pas été capable de gérer sa vie hors baseball. Malheureusement, certains parlaient du fait qu'il était mal entouré, mal conseillé. Mais encore faut-il être capable d'accepter l'aide qui vient de l'extérieur. Et je ne suis pas sûr que Pete Rose avait l'humilité nécessaire pour admettre que quelqu'un d'autre pouvait l'aider. Il a été l'artisan de son propre malheur. C'est triste parce que ça met énormément d'ombre à ce qui aurait dû être une carrière qui l'aurait mené à Cooperstown.
Moi, écoute, effectivement, Alain, c'est une carrière, c'est en deux temps dans le fond. Sa carrière de joueur, écoute, c'est extraordinaire, je veux dire. Qui n'aimait pas voir jouer Pete Rose, détestait ses adversaires. Je veux dire, c'était la manière. Pour moi, c'était la manière de jouer à la balle. Tu te donnes ton 100%, tu cours. Tu sais, on en parle souvent dans nos reportages. Je dis pas de défoncer les receveurs comme il a déjà fait là, mais je veux dire, sa manière de jouer était tout à fait exceptionnelle. Évidemment, champion, frappeur de coup sûr. Je veux dire. Il l'art aussi d'étudier, tu sais, on parle beaucoup de Tony Gwynn, Tony Gwynn, mais Pete Rose connaissait à peu près tous les défauts, tous les défauts des lanceurs. Donc, sa carrière de joueur, effectivement, tout à fait, tu sais, qu'il aurait, on peut débattre aussi, Alain, est-ce que c'est parmi les cinq meilleurs joueurs d'histoire du baseball? Bon, peu importe. Ça reste que lorsqu'on discute de la carrière du joueur sur le terrain, c'est extraordinaire, mais effectivement, le deuxième temps, c'est la carrière hors terrain, c'est la carrière, du fait que on se retrouve aujourd'hui à se dire est-ce qu'il aurait dû être intronisé. Là, le fait qu'il est décédé, moi je pense pas qu'on doit l'admettre, ça serait difficile là, dans ce cas-ci, mais il faut vraiment voir les deux côtés de cette histoire-là pour réaliser que c'était pas facile Pete Rose en dehors du terrain.
Écoute, une petite anecdote, Marc. Dans les années 80, Bill James commençait à populariser les statistiques et déjà commençait à décortiquer, par exemple, les frappeurs qui frappaient plus au sol, les frappeurs qui frappaient et les lanceurs qui avaient ces tendances-là. Et là, il était gérant des Reds de Cincinnati et Bill James allait voir Pete Rose et dit « Bon, il y a un joueur dans ton équipe qui mène le baseball majeur pour des balles frappées dans les airs. Est-ce que tu as une idée, c'était qui? » Puis tout de suite, il l'a trouvé. C'est Gary Radice. Il n'avait pas hésité. Il connaissait le baseball. Il avait une connaissance. Tu parlais d'étudier le baseball. Il savait ce qui se passait sur le terrain. Mais tout le reste, malheureusement, est venu entacher sa réputation, puis malheureusement, par sa propre faute. Bon, Marc, tant qu'à parler des expos et des anciens expos, pourquoi pas continuer? Hein? Terry Francona, après une année en dehors du terrain, revient. Ce ne sera pas très loin de chez lui non plus. Il faut comprendre qu'il est originaire de la région de Pittsburgh. Donc, il était à Cleveland, c'est pas très, très loin de Pittsburgh. Puis là, au lieu d'aller vers le nord, on va aller un peu plus vers l'ouest, à Cincinnati, qui n'est pas si loin que ça de Pittsburgh non plus. Marc, c'est une situation qui est absolument idéale pour un nouveau gérant. Tu rentres dans une équipe qui a besoin peut-être d'un renouveau et une équipe qui est talentueuse.
Une équipe talentueuse qui recherchait peut-être, tu sais, je parlais de leadership tantôt avec AJ Hinch, c'est peut-être espèce de leadership qu'on avait besoin là, chez les Reds. C'est toute une acquisition. Là, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, il a pris sa retraite. Un gérant, là, lui, là, dans son année qui n'a pas géré cette année, il doit se dire, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu comprends, il l'a dans le sang, ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est en santé. Et c'est une belle nouvelle pour les Reds, c'est une bonne nouvelle pour le baseball majeur. Tu veux un personnage un peu Terry Francona. Il est excellent ouais. dans ce qu'il fait. Toute une carrière, évidemment. Très, très bon coup de la part des Reds de Cincinnati. Moi, je pense que c'est le petit coup de pied dans le derrière que ça leur prenait là, pour mm-hmm. permettre à cette équipe-là de vraiment être parmi les bonnes équipes. Moi, je pensais que cette année, ça allait être une bonne année pour les Reds. Ça a été très décevant. Ouais. Et là, avec un gérant comme Terry Francona, je trouve que ça amène la franchise ailleurs, moi. C'est à ce ouais. point-là, parce que on le sait, là. Je sais que les tendances, Alain, les gérants font... Bon, sans dire que ce sont des marionnettes, là, ça arrive, puis on écoute ce que la direction dit. C'est pas le cas avec Terry Francona. Je pense que c'est lui qui mène. Oui, écoute, oui, il y a une équipe derrière lui, mais c'est lui qui mène, et son influence va être énorme, selon moi, à l'intérieur de cette organisation-là, ce qui fait en sorte que c'était la bonne prise à faire du côté de Cincinnati.
En tout cas, il va y avoir, comme je le mentionnais, là, pas mal de talent autour, des ouais. joueurs qui vont revenir qui n'étaient pas là l'année passée. Ce qu'on lui souhaite, c'est que les lanceurs partants soient en santé. Si c'est le cas, je pense que les Reds ont de très bonnes chances de finir premier. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Bon, chez les Blue Jays de Toronto, Marc, le bilan a été fait au cours de la dernière semaine. Chez les Blue Jays, on est déçus, évidemment. On a gardé nos lanceurs partants. John Schneider va revenir, mais on a commencé un petit peu de ménage. On n'est pas content de ce qui s'est passé à l'attaque.
Non, on a à peu près changé tout le monde au niveau des instructeurs de frappeurs. Même Don Mattingly se fait tasser un peu. Là. Lui qui s'occupait aussi en partie des frappeurs va revenir comme son rôle d'adjoint à Schneider. Mais écoute, moi je sais pas, Alain. Ça fait 9 ans là, qu'on a le duo Shapiro puis Atkins. C'est pas une mauvaise feuille de route, pas du tout. On a fait des bonnes choses. Mais je pense qu'on a fait le tour, moi, Alain. On a fait le tour, puis ça aurait été l'occasion pour les Blue Jays d'amener quelqu'un d'autre à la place d'Atkins. Shapiro a fait du bon travail pour rénover le stade. Puis je pense qu'il a été embauché pour aussi garder, tu sais, avoir une garde sur toutes les dépenses. C'est correct, là. Mais au niveau baseball, moi, je serais allé ailleurs. Tu sais, Atkins, c'est pas une mauvaise personne, mais tu sais, ça fait 9 ans, là. Tu sais, à un moment donné, puis je veux dire, à quelque part, tu sais, Vlad Guerrero, c'était pas sur leur règne. Tu sais, les bichettes, tu sais, on les a repêchés, là. C'était tout le rapport de l'ancienne organisation. Qu'est-ce qu'ils ont amené de nouveau vraiment depuis, là? Tu sais, je regarde ils ont fait quelques bonnes transactions, ils en ont fait quelques mauvaises. Les mauvaises ont vraiment été mauvaises, ce qui met une tache un peu sur les bonnes. Puis le réseau de filiales, Alain, est un peu mieux, là, mais c'est pas, tu sais, on n'a pas réussi à répéter lorsqu'on avait justement les Biggio, Guerrero et Bichette, alors qu'on savait qu'on avait un cœur d'équipe, là, qui s'amenait avec l'équipe. Donc, ils n'ont pas fait un mauvais travail, mais moi, je serais allé ailleurs avec ça. Je pense qu'on aurait démontré un peu de leadership, justement, dans l'organisation ouais. pour dire, regardez, là, ça n'a pas fonctionné. On va amener quelqu'un de nouveau qui va arriver avec peut-être des nouvelles idées, qui va peut-être nous aider à aller à passer à l'autre étape. C'est ça, le sport. Ouais. Mais... j'aime la constance, Alain, d'une organisation au fil ouais. du temps. Mais dans ce cas-ci, là, on a eu des déceptions. On n'a pas fait les séries comme on a fait les séries il y a 2 ans, mais on n'est pas resté très longtemps. J'aurais aimé voir un geste posé qui aurait fouetté un petit peu plus l'organisation.
Écoute, tu parles de stabilité. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Faut pas oublier une chose, Marc. La structure aujourd'hui dans le baseball fait en sorte que Shapiro a son mot à dire sur ce qui se passe dans les opérations baseball. Même s'il y a eu d'autres chats fouettés au cours des dernières années, comme Schneider, tu sais, c'est bon. Schneider doit se fier à ce qui se fait, bon, au-dessus de lui. C'est la même chose avec Atkins. Est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose?
Ben oui, écoute, Alain, ça reste des gens qui amènent des idées. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. C'est pas une personne qui change tout. Mais j'espère que quand tu fais partie d'une équipe, ben, t'as une voix qui peut influencer dans la bonne direction, qui peut dire, hey, avez-vous pensé à ça? On essaie-tu telle chose? Alors, sinon, ben, pourquoi on changerait de gérant? Pourquoi qu'on changerait de directeur général? Pourquoi on aurait tout le temps les mêmes? Fait qu'à un moment donné, faut que tu aies des nouvelles idées, faut que tu aies des nouvelles façons de faire qui vont créer un vent de fraîcheur dans l'organisation ou un vent différent ou, tu sais, parce que, regarde, on essaie les mêmes affaires tout le temps. Et à un moment donné, ça prend un résultat différent. Là. Alors, si tu fais toujours les mêmes affaires, attends-toi pas un résultat différent.
Non, c'est sûr.
Autrement dit, si Atkins a pas son mot à dire, ben à ce moment-là, ben ce sera à Rogers Communication de dire, ben on va changer de président qui influence un petit peu trop le reste. Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Ben c'est ce que je pense. Si on veut changer vraiment la philosophie de l'équipe, ça passe par Shapiro. De ce côté-là. Et moi, je suis pas surpris de son retour dans la mesure où on a gardé, par exemple, le cœur du personnel de lanceurs partant de l'équipe lors de la date limite de transaction, ce qui veut dire que l'année prochaine, le mandat, c'était de s'organiser pour essayer de gagner. Donc,
Si tu n'essaies pas de gagner, tu n'es pas dans la bonne industrie, ça, c'est la première des choses.
Ouais, c'est ça.
Deuxièmement, il faut vraiment que les Blue Jays signe Vladimir Guerrero. On a manqué le bateau dans son cas aussi. On aurait pu le signer il y a 2 ans. On ne l'a pas fait. Là, évidemment, probablement que c'est Vlad qui ralentit tout le monde parce qu'il dit un instant, là, moi, puis tu sais, je veux dire, il va être payé comme... Il attend ce que... Bon, on en a déjà parlé. Là, il attend probablement ce que Soto va faire au cours de l'hiver. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, je trouve pas qu'on a géré cette manière-là de faire du côté des Jays. Ceci étant dit, on va avoir une bonne équipe. Là. Ça ne prendra pas grand-chose, mais il faut poser les bons gestes.
Bon, et Marc, il y a un nom, et là, on est au début du mois de septembre, je vais te le lancer tout de suite, c'est Willy Adames, devient joueur autonome. Et je regardais, la plupart des équipes de pointe ont leur joueur d'arrêt-court. L'équipe, je te dirais, qui aurait peut-être le plus besoin d'un joueur de cette trempe, c'est peut-être les Dodgers. Mais il n'y a pas tant d'équipes qui ont besoin d'un arrêt-court et qui pourraient dépenser de l'argent pour en avoir un. Dépendant des Braves, mais les Braves ont d'autres chats à fouetter avec Max Fried et leur lanceur. Mais je te dis juste ça comme ça, Marc. Willy Adames, ce ne serait pas surprenant qu'on le vise pour le joueur d'arrêt-court, parce que je ne pense pas que Bichette, moi, revienne comme joueur d'arrêt-court régulier l'année prochaine. Je ne sais pas ce que
tu en penses. Parce que ça va coûter cher d'avoir Adames, si tu veux garder Bo Bichette éventuellement. Donc, tu es en train de me dire que la valeur de Bo Bichette vient de diminuer énormément et qu'il s'en va jouer au deuxième but. Pas sûr qu'il va accepter ça, moi.
Oui, mais écoute, est-ce que la valeur de Bo Bichette est si élevée? Je ne suis pas sûr qu'il est en position de négocier quoi que ce soit.
Non, ben, il est déjà sous contrat de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là a quand même mène la Ligue américaine la plupart du temps lorsqu'il est en santé pour les coups sûrs, donc une certaine valeur, évidemment. Ça reste à voir. C'est des dossiers qui sont intéressants à suivre au cours de l'hiver, ça c'est sûr.
Mais si tu veux améliorer ta défense, Marc, ça passe beaucoup par l'arrêt-court, c'est pas Bichette qui va t'aider dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Mais ce sera à suivre de toute façon. Bon, c'est le temps de l'horaire des matchs télévisés de la semaine présentés par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Je vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Bon, l'horaire, c'est pas si simple. On va essayer de rendre ça simple. Donc, ce sera samedi, lundi et mercredi. Dans le cas de samedi et lundi, c'est à 13h et 18h30. Les premiers matchs dans les deux cas, c'est Détroit-Cleveland en après-midi. 13h samedi, suivi de Kansas City-Yankees à l'heure du souper 18h30. Pas de match ce dimanche. Et on prend ça lundi à compter de 16h, Détroit-Cleveland. Et le lendemain, Kansas City-Yankees, 19h30. Mercredi, bien là, ça va dépendre évidemment des autres séries. L'heure sera à déterminer. Puis pour les autres matchs, bien évidemment, ça va dépendre si ça se passe. Ça va se prolonger à 4 et 5 matchs. Ben nous, on va se revoir après, à la conclusion pour notre prochain balado, à la conclusion de la série de division, donc tout juste à l'aube des séries de championnat de la Ligue nationale et de la Ligue américaine. Il va rester à ce moment-là 4 équipes, il y en a déjà 4 qui sont éliminées. D'ici là, ben, on souhaite de l'excellent baseball. On en a eu du bon depuis le début de cette série. On espère que ça va se poursuivre. À très bientôt. Bye-bye.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.